Le meeting d'Édouard Philippe, lancement de campagne hier, on va en parler avec vous. Mickaël Darmon, éditorialiste politique pour RCJ, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
5 200 personnes réunies hier donc à l'Adidas Arena pour ce premier grand meeting d'Édouard Philippe, dénommé ainsi. Près d'1 h 30 de discours, un slogan, croire en nous, une affiche, l'homme le poing levé. C'est un combat qu'il a lancé hier, Édouard Philippe.
Oui, effectivement, hein, celui qui se définit comme étant amateur de combat de boxe a voulu montrer qu'il montait effectivement sur le ring, qu'il voulait apporter un peu un démenti à ceux qui, justement, doutaient un peu de sa détermination à pouvoir mener le combat. Et peut-être que croire en nous voulait dire ici de manière plus subliminale croire en lui. C'était peut-être aussi un message qui s'adressait à lui-même. Il a voulu effectivement montrer, démontrer qu'il était absolument donc déterminé. Et de ce point de vue-là, c'était un meeting avec un discours assez personnel, en tout cas au début, où il a voulu remettre un petit peu, rappeler sa biographie, rappeler son parcours, montrer qu'il était un, comme il disait, issu de la classe moyenne, issu de grands-parents qui avaient commencé sur les docks, qui étaient communistes, qui militaient à la CGT et qui, ensuite, 2 générations plus tard, arrive sur le perron de Matignon. Donc, un parcours français qu'il a voulu donc enchâsser dans ce discours et dans, ensuite les grandes lignes d'un projet pour la France qu'il a esquissé devant un auditoire évidemment conquis à sa cause.
Il a rappelé par ailleurs, Édouard Philippe, qu'il avait été Premier ministre de droite. Il a été plutôt ferme sur l'immigration, la justice, l'ordre républicain. On l'écoute justement sur la fermeté face à l'entrisme islamiste.
La République, mes amis, ne baissera ni la tête, ni les yeux, ni la garde devant le fondamentalisme, l'entrisme, le séparatisme, l'obscurantisme. La République, elle ne se discute pas. Elle ne se négocie pas. Elle est un bloc. Un bloc dont rien ne peut être retranché. Et si j'ai une certitude, c'est qu'avec moi, la France de mes enfants sera laïque. Elle sera généreuse avec ceux qui partagent son idéal et qui lui apportent ses talents. Elle sera implacable avec ceux qui la haïssent ou la trahissent.
C'est l'électorat de Bruno Retailleau qu'il va chercher, Édouard Philippe, avec ses propos.
Oui, en fait, on est à ce passage-là du discours dans un moment, effectivement, de volonté de rassemblement et de message envoyé à la droite. Comme vous l'avez rappelé, hein, il a dit qu'il avait été Premier ministre de droite, hein, et passant au passage le dépassement que le macronisme incarnait. Et puis, effectivement, c'est un message envoyé donc à la droite, parce que il sait qu'il doit parler évidemment cet électorat, voire même éventuellement attirer vers lui dès un électorat venu du RN, parce que sinon ce serait effectivement encore plus compliqué. Et puis un message également à ceux qui viennent le rejoindre, parce que également au début du meeting, il a montré, il a cité et fait applaudir tous ceux qui commençaient à le rejoindre, à la fois des ministres de l'actuel gouvernement, à la fois des personnalités donc venues de la droite et de l'UDI. De ce point de vue-là, il veut montrer qu'il est dans cette logique de rassemblement avec une inflexion sur l'autorité, avec une inflexion donc à droite. Et c'était également la volonté dans ce moment-là de montrer cette détermination. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a en tête la façon dont Alain Juppé, son mentor, avait effectivement trébuché sur cette notion d'autorité régalienne.
Une logique de rassemblement qui est plus forte que celle pour l'instant à l'œuvre du côté de Gabriel Attal.
C'est pour l'instant une logique de rassemblement qui veut effectivement montrer qu'il peut beaucoup plus rassembler que Gabriel Attal ne le fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le ralliement de Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement issue de Renaissance et qui logiquement aurait dû soutenir Gabriel Attal, hier présente dans la tribune avec également d'autres personnalités du macronisme comme par exemple Agnès Buzyn, ont été mis en avant pour montrer qu'effectivement, par rapport au match face à Bruno Retailleau, il y a bien évidemment l'enjeu de ramener à lui aussi des personnalités qui ont accompagné Emmanuel Macron depuis 10 ans et qui maintenant considèrent que c'est avec Édouard Philippe que le macronisme peut être et doit être, selon eux, dépassé.
Justement, Édouard Philippe qui a tenu à se distancer d'Emmanuel Macron, qui a reconnu qu'il n'avait pas tout bien fait à Matignon. Ce bilan d'Emmanuel Macron de ses 10 ans, ce n'est absolument pas le sien.
Alors justement, c'était le passage le plus délicat, hein, effectivement, de son discours. Il a rappelé ses 3 ans à Matignon et il n'a jamais évoqué par qui il avait été nommé. Il a évoqué une fois l'autorité du président de la République, mais il n'a jamais, durant tout son discours, prononcé le nom d'Emmanuel Macron. Et il a effectivement à la fois raconté, remis en perspective de son point de vue les décisions difficiles, vertigineuses qu'il a, selon sa formule, lié au moment du Covid. Il a rappelé qu'à ce moment-là, il avait dit qu'il ne savait pas tout. Or, il faut savoir que ce moment où Édouard Philippe, à cette époque-là, s'est montré à la télévision en disant « je ne sais pas tout, je ne sais pas », eh bien, paradoxalement, c'est ce qui a été le début de son essor et de sa popularité, puisque face à Emmanuel Macron, hein, omniscient, eh bien, lui, il se présentait avec plus d'humilité. Et c'est ce qui a, au fond, en rétroéclairage, était le début de ça, on va dire, de son essor jusqu'à aujourd'hui. Et puis, vous l'avez dit, effectivement, il a fait une sorte de critique en creux du fonctionnement et de la pratique du pouvoir et d'Emmanuel Macron, notamment en disant que lui, il ne changerait pas de cap s'il était élu tous les 6 mois, qu'il garderait une constance, qu'il aurait le courage de la constance. Ce mot-là, lors des précédentes rencontres qu'on a pu avoir avec Édouard Philippe, eh bien, a toujours été effectivement un propos qu'il a tenu en disant que la France n'a jamais eu, le gouvernement français n'a jamais eu un jour le courage de la constance. Il le disait alors qu'il était à Matignon. C'était déjà, au fond, le début d'une critique. Et puis, en disant que voilà, il ne changerait pas de cap et qu'il ne jouerait pas un personnage. On va dire que les mauvaises langues peuvent penser que là, ils critiquent un peu les zigzags d'Emmanuel Macron dans différents sujets, mais ça, ce sera laissé à l'interprétation.
Il a lancé, Édouard Philippe, une charge à la fois contre le RN de Jordan Bardella et celui de Marine Le Pen d'un côté et de l'autre contre la France insoumise. Édouard Philippe, il peut éviter ce face-à-face au second tour?
Eh bien, c'est justement son enjeu. C'est en tout cas sur le plan déjà sondagier, il est montré que il est le seul capable, au cas où il serait seul face à un candidat du RN et de LFI, eh bien, à pouvoir se hisser au second tour. Donc, c'est tout l'enjeu, cet enjeu du rassemblement qu'il a voulu donc poser hier pour pouvoir être le seul candidat face au candidat des extrêmes qu'il a renvoyé dos à dos. Dans une logique à la fois chiracienne, hein, dont il est issu, et à la fois également gaullienne, c'est d'ailleurs une référence qu'il a citée, entre autres, le général de Gaulle, en disant que que le RN et LFI, c'était à la fois deux mensonges, deux impasses, et que notamment LFI continuait à souffler sur les plaies des Français, voulait attiser les tensions entre les communautés, et donc faisait également montre d'un antisémitisme le plus rance tel qu'il a formulé. C'était d'ailleurs le seul moment où il a prononcé le mot antisémitisme, c'était en qualifiant l'attitude de LFI.
Il a parlé de lui, Édouard Philippe, de son projet et de sa France. On l'écoute.
On ne comprend pas la France. On ne comprend pas la France si on occulte la Saint-Barthélemy ou les dragonnades Cévenol, si on écarte par confort, parce qu'on ne veut pas la voir, la rafle du Veldiv ou le massacre de Sétif.
La Shoah aussi, c'est l'histoire de France. Quel est le message de ce propos et à ce moment-là du discours qui le clôturait?
Il s'est inscrit déjà dans une logique de, on va dire, assez classique, hein, une épure assez classique des candidats à l'élection présidentielle qui veulent, selon un peu la formule de Michelet, eh bien, prendre sur eux le manteau de l'histoire de France, considérer qu'ils incarnent également une forme de continuité de cette histoire qui est diverse, qui est multiple, qui a eu voilà, des passages d'ombre et de lumière. Dans ces accents-là, à ce moment-là, ça rappelait un petit peu la tirade de Ma France à moi de Nicolas Sarkozy lorsqu'il a été s'est déclaré candidat en 2007, et montrer également qu'il y avait une forme de connexion intime avec la géographie, avec l'histoire de France, de façon à ce que, une fois de plus, il se présente devant les Français comme étant celui qui continue à porter un destin collectif. Et c'est là où, effectivement, il a placé, et c'est à noter, bien sûr, le fait qu'il fallait avoir une lucidité permanente à l'égard de ce qui s'est passé donc pendant la période du nazisme, et en particulier avec la rafle du Vel'd'Hiv. Donc, c'est un là aussi, c'est une, on va dire, une figure imposée du candidat rassembleur.
Et enfin, Michael, demain, Marine Le Pen sera fixée sur son sort. Elle a affiché une unité à toute épreuve avec Jordan Bardella ce week-end, que ce soit elle ou lui. Qu'est-ce que ça change du côté du RN actuellement?
Alors, du côté du RN, ça peut, il y aura forcément, je dirais, un effet affectif de la décision eu égard à Marine Le Pen si elle n'est pas déclarée candidate, et évidemment aussi un soulagement de la part de ses partisans. Mais il faut aussi, au fond, constater que, paradoxalement, le RN a préparé, avec la mise en orbite déjà assez exceptionnelle hein, dans l'histoire de ce parti, la mise en orbite d'un plan B, d'un successeur, d'un remplaçant déjà installé, déjà légitimé. Eh bien, quelque part, ça peut, on va dire, amortir l'effet d'une décision qui viserait à écarter, qui aurait pour conséquence plutôt à écarter Marine Le Pen de l'élection présidentielle. Il faut aussi se reporter, c'est depuis quelques jours, à un sondage qui a été voilà, publié, qui indique que pour les Français, pour la majorité des Français, Marine Le Pen a été considérée et traitée comme une justiciable comme les autres. Donc, ce qui veut dire que peut-être à rebours d'un discours journalistique qu'on aime bien parfois entretenir parce que on nous dit cela également. Il pourrait, si jamais effectivement Marine Le Pen n'était pas, ne pouvait pas nous concourir, eh bien finalement, ça ne pourrait peut-être pas aussi être faire autant scandale que cela dans l'ensemble de la société, parce que la justice aurait été considérée comme ayant fait son travail, et parce que du côté du RN, on a déjà de toute façon, un remplaçant qui, d'ailleurs, dans les sondages, fait un peu, mais quand il est mesuré par rapport à Marine Le Pen, fait un petit peu mieux que Marine Le Pen. Donc, il pourrait y avoir un effet, voilà, un moment affectif important, mais quelque part, le RN s'est déjà préparé au fait que ce ne soit pas Marine Le Pen. Donc, on verra en cette journée internationale du baiser si la justice lui donne le baiser de la mort ou pas demain.